Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le Liban n'est pas seul, promettent les 30 pays qui se sont engagés hier à aider le pays du Cèdre. 250 millions d'euros seront envoyés rapidement pour aider les habitants de Beyrouth, la capitale en partie détruite après l'explosion meurtrière dans un entrepôt du port.
Des Français ont été tués au Niger hier, dont des travailleurs humanitaires. Au total, 8 personnes sont mortes dans une attaque perpétrée par des hommes armés venus à moto. Nous ferons le point sur les premières informations à ce sujet.
Des manifestants se sont rassemblés hier à Minsk en Biélorussie. Russie pour dénoncer la réélection du président sortant, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 et donné gagnant avec quasiment 80% des voix selon un sondage officiel.
Des berges de la Seine aux hauteurs de Montmartre, le masque devient obligatoire aujourd'hui dans de nombreux lieux parisiens fréquentés des touristes comme des habitués.
Après Nice, Marseille et Lille notamment, c'est donc au tour de la capitale française de prendre cette mesure. 250 millions d'euros seront directement distribués aux Libanais qui en ont besoin. La promesse a été faite hier soir par la communauté internationale. Une trentaine de chefs d'État, dont Emmanuel Macron, de gouvernement et de ministres, se sont réunis en visioconférence pour débloquer cette aide d'urgence. Beyrouth en a bien besoin, 5 jours après l'explosion sur le port qui a fait au moins 158 morts et rasé une partie de la capitale. À Beyrouth, justement, où la vie s'organise après ce drame, les habitants sont prudents quant à cet argent censé arriver du monde entier, Nathanaël Charbonnier.
Quand on parle aide internationale ici dans la rue, la première réaction est avant tout philosophique.
Inch'Allah. Inch'Allah tazbat al-amal.
Si Dieu le veut, les choses s'arrangeront, explique ce vieil homme, plus occupé par les gravats jonchés sur le sol que par les millions de dollars promis.
L'important pour le peuple, c'est que l'argent vient au secours de ces personnes endommagées.
Pour Youssef, jeune secouriste volontaire, il serait malhonnête de dire que l'État libanais n'a pas besoin d'argent. Mais il ne va pas être facile de trouver les bons interlocuteurs pour le dépenser.
Le grand problème, c'est donner de l'argent au gouvernement. Ça va être compris d'une façon, ça va être interprété politiquement. Ne pas donner de l'argent au gouvernement, ça va aussi être interprété politiquement.
L'argent nerf de la guerre, mais pas seulement, car comme le rappelle Maïssa, le gouvernement du Liban a déjà eu les moyens, mais il n'a pas forcément su le dépenser pour son peuple.
On avait de l'argent. L'argent, si on ne gère pas, on ne fait pas une vraie construction. C'est pas l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est pas comme ça qu'on construit, c'est pas l'argent. C'est l'esprit, c'est la solution politique, c'est pas l'argent.
Et comme toujours au Liban, tous les chemins mènent à la politique. Reste qu'il y a urgence pour éviter violence et chaos, comme l'expliquait ce dimanche le président français Emmanuel Macron.
Des violences, il y en a eu ce week-end entre manifestants libanais et forces de l'ordre. Samedi et dimanche, des habitants se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth. Deux ministres ont par ailleurs démissionné. Plusieurs Français sont morts hier au Niger. L'Élysée a confirmé l'information dans la soirée. De leur côté, les autorités nigériennes donnent plus de précisions et affirment que sur les 8 victimes, 6 sont françaises, 2 nigériennes, un guide touristique et un chauffeur. Ce qui est sûr, c'est que dans le groupe figuraient des travailleurs humanitaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, déplore une attaque lâche. Les humanitaires ne devraient jamais être une cible, rappelle l'ONG Acted. Que s'est-il passé? Premiers éléments de réponse avec Nathalie Hernandez.
Ce sont 6 Français qui travaillaient pour l'ONG Acted, leur chauffeur et leur guide, qui ont été tués, assure le ministère nigérien de la Défense. Auparavant, l'Élysée avait confirmé que des ressortissants français avaient bien été touchés, sans en préciser le nombre, ni les raisons pour lesquelles ils se déplaçaient au Niger. Ils ont été attaqués vers 12h30, heure française, par un groupe d'hommes armés venus à moto, un groupe qui s'est caché dans la brousse, qui les a guettés, avant de les tuer et d'incendier leur véhicule. Les humanitaires se trouvaient sur la route nationale 1, près de Kouré, à 1 heure de la capitale Niamey, dans une région qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Selon France 24, l'organisation terroriste Al-Qaïda nie son implication dans cette attaque. D'autres groupes armés sévissent au Sahel, comme l'État islamique au Grand Sahara, en particulier dans les pays du G5 Sahel. L'armée française a aussitôt apporté son appui aux forces nigériennes pour retrouver les assaillants.
Emmanuel Macron a déclaré cette nuit être toujours déterminé à lutter, je cite, contre les groupes terroristes au Sahel. Il assure que tous les moyens seront mis en œuvre pour élucider les circonstances de ce qu'il appelle un attentat. Le chef de l'État réunira demain un conseil de défense. Perçu comme un héros par les partisans du camp pro-démocratie, Jimmy Lai a été arrêté aujourd'hui à Hong Kong. Le patron de presse, figure de l'opposition à Pékin, est accusé de collusion avec des puissances étrangères envers de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Le Apple Daily, l'un de ces journaux, a été perquisitionné dans la foulée. Avec près de 80% des voix, Alexandre Loukachenko a été donné dès hier soir grand vainqueur de la présidentielle en Biélorussie. Un score et un résultat largement contesté par ses opposants, en l'absence notamment d'observatoires internationaux. Des opposants qui ont manifesté leur mécontentement à Minsk et dans les grandes villes du pays, en se sortant aux forces de l'ordre. Et c'est dans ce contexte, pour le moins tendu et surréaliste, que le président sortant, celui qu'on appelle le dernier dictateur d'Europe, s'apprête à entamer un sixième mandat d'affilée, Claude Bruyot.
La nuit dehors entre opposants à Loukachenko et forces de l'ordre dans les grandes villes de Biélorussie reste finalement le seul événement logique au milieu d'une succession de faits surréalistes. Avec les manipulations des bureaux de vote confrontés bizarrement à des pénuries de bulletins ou des urnes qui restaient finalement accessibles au-delà de l'horaire de fermeture, avec pour finir le score dérisoire de la principale candidate de l'opposition, crédité seulement de 6% des voix, pour Sergueï Fiodorov de l'Institut européen à Moscou, la réélection annoncée de Loukachenko, même discrédité par les circonstances, reste une bonne affaire pour le Kremlin.
Bien sûr, on peut se méfier de ces chiffres, 80% de Loukachenko. Vraiment, il y a cette tendance identitaire. On veut être bon voisin, mais quand même, c'est un autre état. Pour le moment, on ne voit pas d'alternative. Donc, malgré son caractère scandaleux, pour le moment, c'est une personnalité qui est importante et qui arrange Moscou, je pense.
Mais le Kremlin doit encore valider d'une façon ou d'une autre la réélection de Loukachenko. Vendredi, au téléphone, Vladimir Poutine avait surtout souhaité à son homologue biélorusse que le scrutin se passe dans le calme.
La correspondance de Claude Bruyot à Moscou. Nous reviendrons sur cette élection présidentielle en Biélorussie dans la revue de presse internationale d'Adrien Toffolet. Ce sera à 7h35.
France Culture 7h07, Margot Delpierre, peu importe la canicule, la santé passe avant tout.
La mairie de Paris et les préfectures rendent ainsi obligatoire le port du masque dans la capitale et la petite couronne. Pas partout, mais dans des dizaines de rues commerçantes ou très passantes en Ile-de-France. À Paris, les autorités ont sélectionné les secteurs où des regroupements de population ont lieu dans des espaces réduits, comme les berges de la Seine ou les hauteurs de Montmartre. Une mesure jugée nécessaire qui pourrait réduire la fréquentation de ces zones. Renaud Candelier.
Sur les quais de Seine, Martin, venu pour une promenade, sait qu'il ne reviendra pas les prochains jours.
Ça fera partie des éléments qu'on prendra en compte pour choisir nos promenades.
Même programme pour Samira, installée sur les transats de Paris-Plage.
Pour sortir, c'était aujourd'hui, et lundi-mardi, on va rester à Londres.
C'est cet effet repoussoir que craint justement Hervé, patron d'une crêperie, dans un autre quartier concerné, les abords du canal Saint-Martin.
Personnellement, je pense que c'est une mesure absolument absurde, qui va diminuer encore le nombre de clients. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de montrer du doigt des quartiers où il y aurait un virus qui circule encore plus qu'ailleurs. Donc si les gens sont flippés, ben forcément ils ne vont pas habiter dans ces quartiers-là.
Autre impact cette fois pour les riverains comme dans le quartier Stalingrad où habite Gauthier.
Dans ces quartiers-là voilà, où il y a beaucoup de densité, où les gens partent pas en vacances, voilà, on voit très bien les populations là, les gens ils sont là pour rester tout le mois d'août ici, ils ont besoin d'un peu de fraîcheur, en plus leur donner le masque en plus là, c'est dur, hein. Franchement je trouve ça très dur pour eux.
D'autant que cette nouvelle obligation va imposer d'acheter plus de masques, Sonia n'a pas beaucoup de revenus. Mais elle accepte de payer.
C'est un budget, oui, c'est clair.
Je vois que vous pouvez trouver 50 masques pour 10 euros.
Moi, j'ai une grande famille. Je casque, mais bon. Les premiers intérêts, c'est la santé.
La ville de Paris n'a pas voulu généraliser l'obligation du port du masque en extérieur, mais toutes ces mesures sont très évolutives, rappelle la municipalité.
L'obligation prend effet à partir de 8 heures, donc dans moins d'une heure, et l'absence de masque vous coûtera 135 euros d'amende. Il faut vraiment une prise de conscience collective que la tendance n'est pas bonne, alerté hier le directeur de l'Agence régionale de santé en Ile-de-France. Nous sommes, dit-il, dans un début de rebond épidémique. Si on ne veut pas qu'il se transforme en début de deuxième vague, il faut impérativement que cette prise de conscience pour renforcer toutes les mesures de prévention. Il fera presque aussi chaud qu'hier, mais le temps sera plus instable. La canicule se poursuit avec des averses orageuses sur une grande partie de la France. 54 départements sont concernés par la vigilance orange canicule de Météo France, du sud-ouest au nord-est. Comptez dans l'après-midi 34 degrés à Paris, 35 à Strasbourg, 30 à Bordeaux, 29 degrés à Nice et 22 à Cherbourg.